VOA Afrique, les infos. À Washington.
Georges Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Au Burkina Faso, un parti d'opposition, le Front Patriotique pour le Renouveau, FPA, a été suspendu de toute activité pendant 3 mois pour avoir demandé la démission sans délai du président Roch Marc-Christian Kabore et du gouvernement, indique un arrêté ministériel publié hier. Dans une déclaration publiée le 3 novembre et dépeignant une situation nationale simplement devenue exécrable sur les plans économiques, social et sécuritaire, avec le terrorisme qui avance à grands pas et met à nu l'incapacité des gouvernants à sécuriser la nation, le FPA avait demandé la démission sans délai du gouvernement actuel du Burkina Faso. En Guinée, Amnesty International s'alarme de ce que l'ONG qualifie de violation des droits de l'homme qui se sont multipliés ces dernières années en Guinée et menacent de s'aggraver avec la prochaine présidentielle. Malgré des dizaines de plaintes, l'impunité continue d'être la règle, souligne l'organisation dans un rapport. Bagassi Koura, adjoint à Conakry, François Patuel, il est le chercheur d'Amnesty International qui a travaillé sur le dossier.
Les manifestations sont réprimées et la liste des personnes qui décèdent dans ces manifestations continue de s'allonger. Ensuite, parce que quand des personnes expriment une dissidence, que ce soit des journalistes ou des défenseurs des droits humains ou des militants pro-démocratie, eh bien, ils sont souvent arrêtés ou victimes de harcèlement judiciaire. Et tout cela se passe dans un climat d'impunité. Les autorités refusent de reconnaître les problèmes et peu de personnes font face à la justice quand elles commettent des violations des droits humains.
Récemment, il y a eu quand même assez de manifestations. Est-ce qu'on sait le bilan des victimes?
Oui, il y a beaucoup de manifestations en ce moment en Guinée parce qu'on approche l'année électorale. 2018 était déjà une année électorale avec les élections locales. En 2019, il y a déjà des inquiétudes de la société civile sur les élections présidentielles de 2020. Donc il y a le Front National de Défense de la Constitution qui a organisé plusieurs manifestations. Et malheureusement, les autorités ont tendance à interdire ces manifestations de manière arbitraire. Et les forces de sécurité considèrent que c'est leur devoir d'utiliser la force, quitte à utiliser la force, d'empêcher les gens de se regrouper quand les manifestations sont interdites. Sur le terrain, ça aboutit à une situation où les personnes qui bravent l'interdiction des manifestations sont régulièrement blessées et tués dans ces manifestations. Nous avons censé entre janvier 2015 et octobre 2019 plus de 70 décès dans le contexte de ces manifestations. Nous avons des éléments comme des témoignages des victimes, des témoins, de personnel médical, mais aussi d'avocats qui laissent penser que ce sont les forces de sécurité qui sont impliquées dans au moins 59 cas de décès de manifestants et de passants lors de ces manifestations.
Et que vous disent les autorités justement concernant ces violences?
Alors la première chose, c'est qu'on a été reçus par plusieurs autorités. On remercie d'ailleurs les autorités pour leur ouverture et leur transparence. Nous avons rencontré le ministre de la Justice, l'ancien ministre de la Sécurité, le directeur national de la police, le ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale. Donc il y a eu un engagement du ministre de la Justice en particulier de dire qu'à l'avenir, les personnes seraient libres de manifester de manière pacifique et on espère que les autorités guinéennes tiendront leurs engagements afin de créer un climat apaisé à l'approche des élections présidentielles de 2020.
François Patuel, chercheur à Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest, joint à Conakry. Le président comorien Azali Assoumani a appelé l'opposition à participer aux élections législatives prévues début 2020 et qu'elle menace de boycotter à moins que ses exigences, notamment de transparence du scrutin, soient remplies. L'opposition comorienne a conditionné sa participation aux législatives de 2020 à plusieurs exigences, notamment le vote de la diaspora et la garantie de scrutin transparent, libre et démocratique. Mais le président Azali a refusé publiquement de répondre à ces demandes. Ce bornant a dit que ce serait un plaisir que l'opposition participe aux législatives. Il a en outre de nouveau rejeté les accusations de fraude lors de la présidentielle. Les élections se sont très bien passées. Je n'ai jamais vu une campagne aussi bien se passer, a-t-il affirmé. En République démocratique du Congo, la MONUSCO a qualifié d'inacceptable les discours de haine dans les médias envers une communauté tutsi congolaise des Bayamulenge. C'est dans l'est du pays. Eric Manirakiza.
Nous avons documenté le retour des discours de haine dans certains médias et sur les médias sociaux contre les populations congolaises de Banyamulenge, a déclaré François Grignon, l'adjoint au chef de la MONUSCO en charge des opérations. Ces discours sont inacceptables et doivent être réprimés avec la plus grande fermeté. Nous condamnons cette violence et travaillerons avec le gouvernement pour que les responsables répondent de leurs actes devant la justice, a-t-il ajouté. La communauté Banyamulenge désigne des Tutsis congolais d'origine rwandaise, majoritairement éleveurs dans la province du Sud Kivu. Depuis mai, cette région des hauts plateaux de Fizi est prise dans une spirale de violence. Un notable Munyamulenge a été tué par des membres d'une communauté rivale en raison de conflits liés à la gestion des pâturages et des champs. Le responsable onusien a estimé que la situation a connu une détérioration significative ces dernières semaines. La MONUSCO a donc renforcé sa présence dans la région tout en invitant l'armée congolaise à déployer un renfort afin de reprendre rapidement le contrôle de la situation.
En Tunisie, Rached Ghannouchi, chef historique du parti d'inspiration islamiste Ennahda, arrivé en tête des législatives d'octobre, a été élu hier président du Parlement Bagassikoura.
Rached Ghannouchi, âgé de 78 ans, a accédé hier à la présidence de l'Assemblée nationale avec 123 voix sur 217. C'est suite à un accord avec le parti libéral Kalbo Tounes de l'homme d'affaires Nabil Karoui, vaincu au second tour de la présidentielle du 13 octobre, qui avait pourtant tenté de se poser un rempart contre l'islamisme durant la campagne électorale. Son parti avait exclu avec véhémence jusqu'à la dernière minute tout accord avec la première force du Parlement. Ennahda avait quant à lui réussi à s'imposer en se présentant comme le fer de lance des idéaux de la révolution de 2011. Avec seulement un quart des sièges dans un Parlement morcelé, ce parti doit cependant faire d'importantes concessions pour avoir une marge de manœuvre. L'élection de Ghannouchi à la tête du Parlement intervient deux jours avant le délai pour que son parti annonce le nom d'un premier ministre qui aura la lourde tâche de former un gouvernement susceptible de convaincre la majorité des députés.
Revendications salariales et polémiques autour d'emplois fictifs, un bras de fer entre les enseignants et leur ministère étale depuis un mois la rentrée scolaire en Libye où l'enseignement est déjà perturbé par le chaos politique et les récents combats près de Tripoli. Les enseignants en grève depuis des semaines réclament notamment du gouvernement d'Union nationale GNA basé dans la capitale une revalorisation de leur salaire et le départ du ministre de tutelle Othmane Abdel Jalil. Monsieur Jalil a récemment ordonné la suspension de centaines d'enseignants et de responsables grévistes ainsi que le licenciement de dizaines de milliers d'autres accusés de percevoir un revenu sans exercer leur métier.
Nos infos sur voafrique.com.
C'était hier ici à Washington la première journée des auditions publiques au Congrès pour déterminer si le président Donald Trump doit être mis en accusation dans l'affaire ukrainienne. Abdourahmane Diaf fait le point.
Ancien militaire, William Taylor a ouvert les auditions publiques et télévisées aux côtés d'un autre diplomate de carrière, George Kent, haut responsable du département d'État spécialiste de l'Ukraine. Les deux témoins avaient déjà livré leur version à huis clos en octobre. M. Taylor a affirmé qu'un canal diplomatique irrégulier avait été mis en place avec l'Ukraine et que cette diplomatie parallèle était dirigée par Rudy Giuliani, avocat personnel du président Donald Trump. À la mi-août, il m'est apparu évident des efforts de Giuliani visant à poursuivre des intérêts allant à l'encontre des objectifs à long terme de la politique américaine en Ukraine, a renchéri M. Kent. Cette procédure est une campagne de calomnie, s'est insurgé le républicain David Nunes. Dénonçant une chasse aux sorcières, le président Trump a promis de prendre sa revanche dans les urnes en 2020. Une dizaine d'autres auditions sont prévues au Congrès d'ici le 20 novembre.
Les États-Unis maintiendront finalement quelques 600 militaires en Syrie, malgré la volonté affichée par le président Donald Trump de cesser les guerres sans fin, selon le chef du Pentagone, Mark Esper. Alors qu'on lui demandait si ce nombre comprenait les quelques 200 soldats déployés sur la garnison d'Al-Tanf dans le sud de la Syrie, à la frontière avec la Jordanie, M. Esper a expliqué qu'il ne parlait que du nord-est de la Syrie, où Donald Trump a désormais chargé le Pentagone de sécuriser les champs de pétrole. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochain journal dans 50 minutes, vous retrouverez Henri Francis pour un nouveau journal. À tout à l'heure et merci pour votre fidélité. Nous sommes le jeudi 14 novembre 2019.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.